Et donc, je découvre ce livre, Détective au temps de la Bible. Voilà, c'est bien dessiné, tout est parfait. Et puis j'arrive à la deuxième page et je vois que le déluge n'est qu'une inondation locale. En disant, voilà, le Tigre et l'Euphrate, de temps en temps débordaient, ça peut arriver, même que toute la région ait été inondée. Moi, j'avoue, je suis scandalisé, tout simplement. Je suis scandalisé qu'on puisse écrire des choses comme ça de la part de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est pas la première fois qu'ils écrivent quelque chose. Ils avaient déjà écrit un petit livre une fois pour dire que l'évolution était une réalité. Ben voilà. Or, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un cher monsieur millionnaire qui a construit d'abord en Hollande une arche à la moitié de la grandeur, de 70 mètres et quelques de long, et un jour il a construit une arche totale et que j'ai eu le privilège de visiter en Hollande. Voyez, j'ai mis mon bus là-devant, j'ai dormi une fois là, je suis entré dans cette arche, chers amis, en pleurant, parce que j'avais le sentiment, plus que ça, d'entrer dans le salut en Jésus. Il est notre arche, n'est-ce pas ? Il me disait, comme un jour il a sauvé Noé et sa famille, nous sommes sauvés en Jésus. Et j'entrais dans cette arche en disant, Jésus est notre arche qui nous sauve et pour l'éternité, pour le royaume des cieux. Mais elle est d'une beauté, d'une grandeur, c'est grand à n'en plus finir. Et puis à l'intérieur même, il y a toute l'histoire du salut. Ils ont mis l'histoire du salut, donc... Alors il y a des animaux très bien faits, il y a même des colombes vivantes et des petites chèvres, mais c'est immense, c'est gigantesque. Il y a un restaurant de centaines de places, il y a deux salles de cinéma, il y a une bibliothèque, il y a un ascenseur pour ceux qui ont de la peine à marcher, mais on s'y perd tellement c'est grand. Et ils ont montré comment, avec quels outils Abraham avait fabriqué les choses, c'est extrêmement bien fait. Et là, alors, j'ai des amis qui ont voulu la visiter l'année passée. Malheureusement, elle n'était plus là parce qu'ils l'avaient amenée au Brésil pour les Jeux Olympiques. Aucun média n'en a parlé. Aucun. Et c'est là qu'on voit ce qu'est l'information aujourd'hui, n'est-ce pas ? Notre Europe est tellement contre la foi chrétienne, dans les médias, dans la télévision, qu'ils ne disent pas un mot d'un tel événement. Et pourtant, elle est grande, je peux vous dire. C'est comme quand il y a eu les Jeux Olympiques à Séoul, alors que là, il y a la plus grande église du monde, où il y a 600 000 personnes qui font partie de cette église. Et quand ils veulent se rassembler, ils vont au stade olympique, mais ils prennent des numéros, parce qu'ils ne peuvent pas être plus que 60 000. Eh bien, les médias n'en ont pas soufflé un mot. Je reviens de Chine, il y a longtemps qu'on dit qu'il y a plus de 100 millions de chrétiens en Chine. 100 millions, vous imaginez ? On dit même 100 millions, 200 ou 300 000. Dans la région où je suis allé, en Mandchourie, près de la Mongolie et de la Russie, et juste sur la Corée du Nord, c'est grand comme la France au moins, eh bien, seulement cette année, il y a plus de 150 nouvelles églises de maison. Le christianisme grandit à une vitesse incroyable. Quels sont les médias qui en parlent ? Personne. Parce que c'est insupportable. Comprenez, les médias, ils sont tellement opposés à la foi chrétienne. Nous sommes dans une Europe qui se déchristianise, où on a honte de la foi chrétienne, on veut éliminer tout ce qui ressemble à la foi chrétienne jusqu'aux crèches de Noël. Récemment, en Angleterre, ils veulent enlever tous les signes qui parlent de Jésus. C'est-à-dire, on ne dira plus 200 ans avant Jésus. Vous voyez ? Ça, ils ne veulent plus. Mais les médias font ce qu'ils veulent. Or, pour eux, c'est insupportable de penser qu'en Chine, il y a plus de 100 millions de chrétiens. Parce que ça veut dire, pour eux, la foi chrétienne, c'est une affaire de Rome, c'est une affaire de Genève. Et la foi chrétienne n'est que européenne. Et malheureusement, on l'a imposée et transportée dans le monde. Ça, c'est la thèse officielle. Alors qu'aujourd'hui, il y a tant et tant de chrétiens. Au Népal, en Inde, partout. Alors, c'est vrai qu'il y a de la persécution, mais on n'en parle pas. Donc là, cette arche était au Brésil et il va la promener dans le monde entier. Parce que alors ils l'emmènent sur une barque pour traverser l'océan, mais là où je l'ai vue, elle était sur sur le Rhin, elle flotte, hein, vraiment. Maintenant, voyez, la Bible est très claire. Il y a les mondes selon deux pierres, vous voyez, il y a le monde ancien, le monde d'alors, l'ancien monde, qui est le monde avant le déluge, qui a péri. Il y a le monde actuel et il y a le monde à venir. Or, ce que les géologues étudient, ce que tous les scientifiques étudient dans le monde, ils étudient le monde d'aujourd'hui. Ce n'est plus le monde d'avant le déluge. Il y a eu des changements absolument majeurs. Alors, Moïse est cité, parce que vous voyez, il s'agit maintenant de l'autorité du Pentateuque. Il s'agit maintenant de l'autorité des cinq premiers livres de la Bible, puisque le déluge a été écrit par Moïse. Or, Moïse est cité 804 fois dans la Bible, 274 fois dans l'Ancien Testament, 80 fois dans le Nouveau. Constamment, Dieu dit à Moïse, c'est dit 178 fois dans le Pentateuque, 4 fois dans Josué. Moïse a écrit 40 fois dans la Bible, 6 fois dans le Pentateuque, 2 fois dans Josué. Je ne veux pas tout lire cela avec vous, mais c'est important, très important. Même, voyez, Josué, Moïse était déjà mort, mais Josué dit, selon ce que Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux Israélites, comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Or, ça met notre foi un petit peu à l'épreuve, mais moi ça ne me gêne pas. Parce que ça veut dire que Moïse a écrit le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, pendant le temps de la traversée du désert, pendant les 40 ans du désert. Or, aujourd'hui, certains disent, oh, mais alors, puisqu'ils étaient au moins 2 à 3 millions d'Israélites, selon les chiffres très clairs, on ne retrouve rien de ce passage. Alors, un, d'abord, je dis, moi, ça m'est égal, qu'on trouve quelque chose ou pas, je crois à la parole de Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu confond les êtres humains. Un jour ou l'autre, Dieu confond notre monde. Je prends un exemple. En faculté de théologie libérale, à Neuchâtel, on nous enseignait que le livre d'Ésaïe était coupé en trois. Pourquoi il était coupé en trois? Parce que il est dit dans Ésaïe, à un moment donné, que Dieu appelle Cyrus son Messie. Et un certain nombre de scientifiques, de chercheurs ont dit le mot Cyrus n'existait pas au temps d'Ésaïe. Donc ils ont coupé le livre d'Ésaïe, et naturellement, quand ils arrivent à Ésaïe 53, c'est une telle description de la vie de Jésus, avec tellement de précision, on dit c'est impossible d'écrire la vie de Jésus 600 ans, 700 ans avant Jésus, c'est pas possible, il y a trop de détails. Donc, ils ont dit, ça c'est écrit après la vie de Jésus. Et voilà que un beau jour, dans les grottes de Qumran, ils trouvent le rouleau d'Ésaïe, qui fait plus de 6 mètres de long. Il y a un fac-similé à Jérusalem qu'on peut voir, ils ont naturellement l'original, et il est d'un seul tenant. Il n'y a pas trois coupures. Et ils l'ont fait dater par des universités, trois universités différentes dans le monde, au carbone 14. Les trois universités ont été formelles. Ce rouleau date d'au moins 100 ans avant Jésus. Ce n'était donc pas celui qui a écrit Ésaïe, mais c'était une copie, mais une copie qui datait d'au moins 100 ans avant Jésus. Donc Dieu permet de temps en temps des découvertes qui viennent confronter le libéralisme, parfois hélas, des chrétiens, mais surtout de notre monde. Donc, Moïse, pour moi, c'est celui qui a inventé l'écriture proto-hébraïque. Parce que Moïse a été élevé à la cour du Pharaon. Ça veut dire dans les meilleurs enseignements possibles. Je peux imaginer vraiment que Moïse savait l'écriture hiéroglyphique, qui était l'écriture de l'Égypte, qu'il savait probablement aussi l'écriture pictographique, Et ces écritures du Moyen-Orient, parce qu'ils écrivaient beaucoup à l'époque. Or, pour que Dieu communique sa pensée, il ne peut pas la communiquer avec des systèmes hiéroglyphiques, parce que c'est des idéogrammes qui n'ont pas beaucoup de précision sur le terme. Donc, il fallait une écriture alphabétique précise, avec une grammaire, avec une précision, puisque Jésus dit même, il n'y a pas un seul trait de lettre qui disparaîtra de la parole de Dieu. Donc, il a fallu que Moïse écrive dans une langue construite qui est le proto-hébraïque, dont on retrouve des signes d'ailleurs dans le Sinaï. Mais ça veut dire aussi que c'est pendant tout ce temps où ils avaient quand même beaucoup de matériel avec eux, ils avaient pris beaucoup de choses, ils fabriquaient des choses aussi. Et donc, c'est dans ce temps-là, puisque Josué dit comme Moïse a écrit. Et voilà, on pourrait trouver alors maintenant partout David, Salomon, tous ces rois, ils reviennent toujours au livre de Moïse, dans les chroniques, et Jésus, voyez, Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis, car il est écrit dans la loi de Moïse, voyez Paul, dans les Actes, Romains, Corinthiens, dans toute la Bible, on fait référence aux écrits de Moïse. Et un verset que j'aime beaucoup, Jean 5, 46, car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit à mon sujet, mais si vous ne croyez pas à ses écrits, Moïse, comment croirez-vous en moi? Je suis très triste de penser qu'aujourd'hui des chrétiens évangéliques disent, un, que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque, et deux, que le déluge n'est pas universel. Je suis un des fondateurs de la revue Rokhma, une revue de théologie, et c'était des articles qui étaient traduits au début parce qu'on essayait de contrer nos professeurs en faculté à Neuchâtel, mais à Lausanne, à Genève, à Paris. On s'est regroupé dans toute l'Europe pour dire il faut, parce qu'on savait qu'il y avait des théologiens anglophones qui, eux, étaient des savants et qui, eux, croyaient que Moïse avait écrit le Pentateuque. Et c'est le cas de Kenneth Kitchen qui a écrit des articles en disant, ça a été, vous voyez, un égyptologue anglais, c'est un spécialiste de l'histoire de la troisième période intermédiaire, période sur laquelle il a écrit plus de 250 ouvrages et articles, naissance, etc. Voilà. Et lui a écrit en disant, rien ne s'oppose du point de vue scientifique à ce que Moïse ait écrit les livres du Pentateuque. Je veux encore poursuivre un petit moment, mais je ne veux pas vous fatiguer trop longtemps ce soir, puisqu'il y aura une deuxième soirée. Mais j'aimerais encore qu'on parle du mont Sainte-Hélène. Vous avez peut-être entendu parler de l'explosion du mont Sainte-Hélène. C'est récent, c'est plus 1980, et ça a eu lieu là-bas, dans cet état, tout près au nord-ouest des États-Unis. Or, j'aimerais vous passer ici aussi un petit film. Et ce film, je l'ai pris sur Arte. Alors, il vous montre des choses, mais il y a des choses qui vous cachent, que vous montrerez après. La plupart des images sont authentiques. La plupart de ceux qui parlent sont ceux qui ont vécu les choses, à l'exception d'un géologue qui est mort pendant l'explosion. Et lui, dans le film, c'est donc un acteur qui joue son rôle. Mais les images sont d'époque, sont d'authentique. Et je vous montre cela aussi pour vous montrer comment un seul volcan peut modifier un territoire. Parce qu'au temps du déluge, il y a eu des catastrophes phénoménales. Au temps du déluge, je vous en redirai quelques mots. Ça a été pas simplement de la pluie qui est tombée, mais les écluses des cieux sont tombées sur la terre. Mais les écluses terrestres, les fontaines terrestres mais ça a bouleversé toute la terre. Et par la suite, voyez, comment est-ce qu'il a fallu évacuer l'eau? Vous imaginez? Est-ce que vous avez déjà pensé que quand la terre était noyée, les montagnes n'étaient pas si hautes qu'aujourd'hui. C'est après qu'il y a eu la surélévation des montagnes, par des phénomènes extraordinaires. Mais Dieu, si l'eau du déluge, qui est arrivé des cieux et qui est arrivé de sous la terre. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit qu'il y a un océan sous la terre. Et ça, ils sont clairs. Ils disent qu'il y a encore un océan sous la terre qui est gigantesque. Donc, même toute l'eau de sous la terre n'a pas jailli lors du déluge. Mais ça veut dire que s'il avait fallu que le soleil élimine cette eau, mais il y en avait pour des années et des années. Et c'est là que Dieu a permis que les océans se creusent. Ils étaient nettement moins profonds avant, qu'il y a eu des océans se sont creusés pour recueillir toute cette eau qui, en déferlant à des vitesses, et on va en parler la semaine prochaine, des vitesses phénoménales qu'on trouve en Bretagne, par exemple, on nous a montré des blocs de 200 tonnes qui ont voyagé sur 400 kilomètres et il n'y a aucune explication, aucune. Ils sont là dans une vallée, il y en a plein partout et ils disent, les scientifiques, seul un courant d'au moins 800 kilomètres à l'heure a pu déplacer ces roches. Donc, imaginez que tout ce qui s'est passé à la fin du déluge, c'était extraordinaire. Or, je vais vous montrer ce film, un bout de ce film. Donc, c'est l'explosion du mont Saint-Hélène. Le voilà.
Culmine à près de 3000 mètres. Il est entouré de 5000 km² de parc national. Le mont Saint-Hélène est un volcan en sommeil depuis plus de 100 ans. Mais il se dresse au cœur d'une zone d'activité sismique et volcanique. Début 1980, il est secoué par une série de tremblements de terre.
On a un hélico au-dessus de la montagne.
Nous survolons le sommet. On dirait une cheminée qui fume.
Le volcan entre en éruption. Cendres, vapeurs et gaz s'élèvent à plus de 2000 mètres du cratère.
L'éruption a creusé un cratère au sommet qui doit faire dans les 75 mètres de diamètre. Oh, wow! Il semblerait que le glacier sur le versant supérieur soit endommagé.
Durant les jours qui suivent, tremblements de terre et projections de cendres et de vapeurs se multiplient.
Il se peut également que cet écoulement parvienne à franchir cette passe au sud, vers Pine Creek. Ça remplirait les retenues et provoquerait leur débordement. Et Spirit Lake, ici, serait complètement englouti sous les glaciers fondus du flanc nord.
Les tremblements de terre continuent. Mais on ne parvient pas à découvrir d'activité fumerolienne. La montagne semble s'être calmée. Et pourtant, elle se met à changer de forme sous les yeux des scientifiques. À une dizaine de kilomètres à l'ouest du mont Saint-Hélène. Donald Mulino, qui étudie la montagne depuis des années, par l'observer de plus près.
Mince alors. La bosse est gigantesque. Elle déforme la montagne. C'est à peine si on la reconnaît. Cette protubérance doit atteindre dans les 1500 mètres.
C'est bon, respire, Donald. Calme-toi.
La montagne va céder.
On est bien trop près, c'est de la folie, on est pile devant la bosse.
Mais d'après les études, cet endroit a survécu à toutes les éruptions depuis 38 000 ans.
Cette vieille montagne n'aura pas trop mal.
Thank you. assister à une éruption, c'est entrevoir la création et la destruction du monde en un seul événement.
C'est un acteur.
Le dimanche 18 mai 1980, à 8h32 du matin, un panache de roches surchauffées jaillit du mont Saint-Hélène. La température de la nuée ardente atteint les 352.
J'ai 1200 hectares. Il faut envoyer nos hélicos sur place. Bien, nous devons évacuer tout ce secteur en raison des inondations. Et il y a aussi tous ces troncs qui dévalent par ici.
L'éruption du 18 mai 1980 a littéralement décapité le mont Saint-Hélens, qui aura perdu 400 mètres de hauteur. On découvrira un nouveau cratère large de 3 km. Près de 400 millions de mètres cubes de débris, de cendres et de gaz furent expulsés dans l'atmosphère. Un séisme de magnitude 5.1 agita le volcan, provoquant un glissement de terrain se déplaçant à 500 km/h. C'est le plus vaste glissement de terrain jamais enregistré. Des nuages de roches surchauffées et de gaz suffocants explosèrent de la montagne. L'éruption résolut l'énigme qui intriguait les savants depuis 3 mois. Le magma retenu dans le renflement ne sortit pas par le sommet, mais se forgea un chemin à travers le flanc de la montagne à l'occasion d'une explosion latérale. Ni cendres, ni émissions de gaz n'annoncèrent l'imminence de l'éruption. La force de l'explosion fut estimée à 500 fois celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. La colonne de cendres, de gaz et de débris projetée par l'explosion latérale s'éleva à plus de 20 km dans l'atmosphère. Les cendres volcaniques retombèrent sur 11 États d'Amérique du Nord et firent le tour de la Terre en 15 jours. Le volcan dévasta une région de 600 km². Une surface 3 fois supérieure à toutes celles dévastées par aucune éruption en 4500 ans.
Or, ce film qui nous montre ces choses continue en montrant que la végétation est revenue, que les animaux sont revenus. Il y a même des phénomènes assez étonnants, c'est qu'il y a des animaux qui étaient partis avant l'éruption, ils avaient senti cela, et par la suite, il y a eu un phénomène biologique, semble-t-il, connu dans d'autres situations, où pour se repeupler, les animaux sont capables d'avoir fréquemment des jumeaux. Et ils ont montré que tout était rentré dans l'ordre, point à la ligne. Or, je vais vous montrer, on terminera ce soir ici, une autre réalité, une fois de plus, cachée, et ça me fâche beaucoup, parce que on vit en fait de choses cachées, Donc, voilà, on retrouve là quelques images, vous voyez. Voilà la situation actuelle, vous voyez, le lac est de nouveau très beau. Mais ce qu'on cache, c'est qu'il a creusé un canyon gigantesque. Parce qu'imaginez, il y avait un glacier qui a fondu presque instantanément. Les forêts ont brûlé, tout cela a été emporté, des millions et millions de mètres cubes de roches, d'arbres, de lave, de tout cela sont descendus dans la vallée et ont creusé un canyon gigantesque. Et ce canyon, vous voyez, il a cette hauteur-là, est formé de toute une série de couches, et je ne sais pas si j'ai montré, non, je ne suis pas allé plus loin, mais je vais revenir en arrière. J'aurais pu mettre beaucoup d'autres images sur ce... Là, ils ont trouvé des arbres fossilisés en quelques jours. Ils ont trouvé des veines de charbon, et du charbon de très haute qualité. Ça veut dire qu'on peut fabriquer du charbon en laboratoire, il faut des pressions énormes, il faut les matériaux de base, des pressions énormes et des chaleurs formidables. Tout ça a eu lieu. Or, nous avons, Dieu a permis qu'un mini-monde soit créé en quelques heures et quelques jours. Et que le canyon qui est là-bas est une image du Grand Canyon, par exemple, aux États-Unis, où on ne fait que dire, alors je peux vous en parler longuement aussi, parce que là, on trouve des choses qui ne correspondent pas aux millions d'années, mais on a pu faire des mesures, là, parce que quand on mesure les couches, comme je vous l'ai dit, avec les ossements de dinosaures, on va travailler avec la radiométrie en fonction des roches qui sont sorties de la Terre, c'est-à-dire du magma. Parce que là, on peut dater en fonction de l'émission de radioactivité. On va simplifier les choses comme ça. Mais donc, quand ça sort de la Terre, on part au temps zéro. Et ça, c'est reconnu mondialement. Or, Guy Berthaud, qui est devenu un ami, qui, lui, a financé, il continue de... On a passé une semaine avec lui, il est décoré de la Légion d'honneur en France, membre de la société de l'Institut géologique et tout, il est allé là-bas faire des datations de ces roches qui dataient de 1980, et il m'a même communiqué dans un document écrit les millions d'années que les instruments classiques donnaient pour des roches qui avaient quelques années seulement. Et on peut trouver... ici, dans ce livre du déluge, des exemples de basalte, etc., qui sont sortis des volcans qu'on connaît, voyez, depuis 200 ans, 2000 ans, 1100 ans, il y a même l'Etna, 2500 ans, et qu'on mesure en 25 millions d'années, etc. Et donc, ce n'est pas seulement au Mont-Sainte-Hélène que ce problème est là. Donc, ça veut dire que le Grand Canyon, maintenant, on démontre que il y a des couches gigantesques qui proviennent de milliers de kilomètres. Et personne ne peut expliquer comment ces matériaux sont arrivés là, sauf par ce phénomène de l'après-déluge, où il a fallu que tout le monde soit reconstitué avec de l'eau qui a coulé dans le monde entier pour former des gorges, des canyons. Et je vous montrerai la semaine prochaine avec les études qu'on a menées en Bretagne, enfin, on nous a montré le résultat des études. Dans le monde entier, on trouve les traces très claires de phénomènes d'une violence inouïe et surtout des vitesses impressionnantes. Et donc, c'est le cas du Grand Canyon ici. Voilà. Alors, on s'arrête là. On aura des questions, bien sûr, sur en six jours. Est-ce que c'est écrit en six jours? Eh bien, on va s'arrêter là ce soir, mais je vous signale quand même un livre en anglais écrit par 50 professeurs d'université. Et ces 50 professeurs d'université, dans leurs différentes branches, dans leurs différentes études, disent pourquoi, du point de vue scientifique, il a fallu que tout soit créé très rapidement. voyez, on dit si les abeilles disparaissent, eh bien, il n'y aura plus la fécondation des arbres fruitiers. Mais ces savants, ces scientifiques nous montrent que tout doit tenir ensemble. Tout, il a fallu que tout soit créé très rapidement pour que ça fonctionne. Voyez. Et donc, on va s'arrêter là. Il y a des livres comme ceux-là qui existent, mais je vous dirai encore bien d'autres choses. J'espère vous retrouver dans 15 jours, parce que j'ai encore des choses majeures à vous dire et des choses qui sont incontestables. Voilà, on va s'arrêter là, mais si pour la fois prochaine vous avez une question qui brûle votre langue, je veux essayer d'y répondre ou d'y répondre la fois prochaine. Voilà. Ça va? Vous n'êtes pas assommé?
Je peux vous poser une question?
Mais bien sûr, on peut même se tutoyer, mon frère.
Non, je vais au barrage des moissons et aux vieux moissons. Plus en gros, on nous dit qu'il y a des traces de dinosaures.
Oui, oui, oui.
Mais c'est pas possible.
Oui, c'est possible, bien sûr. Il y en a partout. Il y en a dans le Jura aussi. D'accord. Bien sûr. Sauf que là, on va vous dire, oh oui, non, mais ça, c'est une réalité. Il y en a dans le Jura aussi. Il y en a partout, en fait.
D'accord.
Parce qu'ils ont marché un peu partout. Le seul problème, c'est qu'on nous dit que ces roches datent de 60 millions d'années au moins. On ne sait pas, en fait. Je vais vous montrer, il faudra vraiment que je puisse travailler avec la Wi-Fi, parce que Guy Leduc, qui est de renommée mondiale, lui, il démontre des choses qui sont incontestables par les géologues, même athées. Et il montre que, il démontre dans le monde entier que tout a été rasé comme avec une pelle mécanique qui a passé sur l'ensemble de la surface terrestre. Et que, parce que vous savez que les continents sont formés de granit, n'est-ce pas? Nous sommes dans une planète rocheuse, donc tout repose presque sur le granit. Or, il montre et il démontre avec des géologues qui sont bien obligés de constater des choses, qu'au temps du déluge, en fait, universel, qu'on trouve dans des traces dans le monde entier, eh bien, il y a eu comme si tout avait été broyé, rasé. Et il démontre que tout ce qu'on voit aujourd'hui, alors il y a eu de l'érosion depuis le temps du déluge, bien sûr, de l'érosion. L'érosion continue à chaque orage. Là, vous voyez les dégâts qu'il y a quand il y a des grands orages, avec les montagnes qui descendent, des pierres qui envahissent la vallée, des coulées de boue. On a ça bientôt tous les jours à la télévision dans le monde, tant il y a de catastrophes. Donc l'érosion est une réalité. Mais il montre que tout ce qu'on voit, à part quand on commence de regarder à certains endroits qui sont visibles, c'est quelque chose qui vient après le déluge, quand les océans se sont effondrés pour recueillir toute cette eau, et qu'il y a eu surélection des montagnes. Ils expliquent aussi pourquoi on dit que l'Himalaya est une chaîne jeune, mais qu'on date quand même de millions d'années. Mais comment expliquer qu'on trouve des surfaces cultivé à 5000 mètres d'altitude, qu'on trouve des tas de coquillages jusqu'en haut de l'Himalaya, c'est inexplicable, inexplicable, parce qu'il n'y a jamais une mer qui a pu aller jusque-là-haut, jamais. Ça ne peut être que des éléments qui sont montés très rapidement, puisqu'il y a même des plateaux qui ont été cultivés donc par des êtres humains qui ne vivaient pas il y a des millions d'années. Voilà. Je veux prier avec vous. Seigneur, merci pour ces amis qui ont pris la peine de se déplacer pour aussi avoir plus de convictions encore solides dans un monde qui refuse la parole de Dieu, qui refuse même des évidences. Le Seigneur, merci pour ces scientifiques qui ont mis en question les choses, d'autres qui nous démontrent des choses. Seigneur, nous sommes fortifiés dans notre foi, ta parole est vraie, et ce qui nous importe, c'est pas tellement de tout démontrer, de savoir que cette parole est vraie, et que dans 100 ans de Noël, la naissance virginale de Jésus est une réalité, que les anges c'est une réalité, et que notre salut est une réalité. Seigneur, nous aimerions partager cela avec tous ceux qui nous entourent et nous te prions Seigneur, de remplir nos cœurs de ta présence, de ta vie, de l'Esprit Saint, de ta joie, afin qu'on puisse vivre l'Évangile et transmettre toutes ces belles choses, à commencer par la parole du salut en Jésus-Christ. Soyez bénis, Seigneur, tu bénis ces frères et sœurs, tu les fortifies dans leur santé, tu les gardes sur le chemin du retour, tu bénis leur famille, tu bénis cette Église, Seigneur, sois loué pour ta présence et ta bonté. Amen.
Amen.
Bonne fin de soirée, les amis.
Merci.
Merci beaucoup.